Dans le cadre des recherches pour notre livre à venir, Hubert Kratirov et moi-même avons interviewé Stéphane Galliani pour parler de son nouvel opus « La vague Web 3 ». Ce livre est coécrit avec Stéphane Truffem et publié aux éditions Duno. Il fait le point sur le phénomène du Web 3 dont Stéphane nous confirme l'importance. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de Palado Diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, la vague Web 3 est un tsunami et non une vaguelette, selon Stéphane Galliani, co-auteur du livre La vague Web 3. Voici la version audio de cette interview menée avec Hubert Kratirov dans les locaux de Visionary Marketing avec Stéphane Galliani.
Nous sommes réunis aujourd'hui avec Stéphane Galliani pour parler d'un livre, La vague Web 3. Ce livre a été coécrit avec Stéphane Truffem et est publié aux éditions Duno. Alors, premier commentaire sur ce livre, c'est un très bon livre, hyper complet. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Je recommande chaudement à nos auditeurs. Est-ce que ce Web 3, est-ce qu'il est réellement technique? Est-ce qu'il est réellement complexe? Et comment vont faire les futurs adopteurs pour passer cette complexité et passer cette technicité?
Alors tout à fait, effectivement, la vague Web 3, c'est une troisième vague qui arrive après le Web 1 et le Web 2. Je pense effectivement, et pour avoir vécu déjà la vague Web 1 et la vague Web 2, et cette vague Web 3, c'est vrai que j'ai mis plus de temps à rentrer derrière les mots, derrière les concepts qui s'en dégagent. C'est pour ça aussi que dans le livre, on a mis un glossaire avec des mots-clés importants, parce que je pense que sans les mots, sans le vocabulaire, le jargon de ce Web 3, on va pas aller très loin. Derrière le mot, va se cacher des concepts blockchain, DAO, etc., qui effectivement sont des concepts qui sont aussi compliqués à comprendre avec des mots. C'est pour ça aussi qu'il y a des schémas. Et ces schémas permettent de visualiser un petit peu des choses que pour un étudiant ou simplement quelqu'un qui est curieux pour aller sur le Web 3 ou un chef d'entreprise qui n'est pas du tout au fait, permet effectivement de s'approprier ce livre.
À un moment dans le livre, vous parlez du CAC 40, vous parlez du lièvre et de la tortue, donc la tortue étant le CAC 40 et puis le lièvre étant le Next 40 qui vient juste de sortir.
Tout à fait. Alors juste pour reprendre sur le contexte, effectivement, on a vu les startups des NVB arriver et donc ubériser quelque part des entreprises plus grosses. Donc la métaphore de la fontaine, le lièvre et la tortue, est intéressante parce que vous connaissez la fable, à la fin c'est la tortue qui gagne. Donc c'est aussi pour rassurer les grosses entreprises, les gros paquebots qui n'ont pas forcément l'agilité des startups, de dire que c'est possible pour tout le monde. Cette course elle se joue à la fois gérée entre les grosses entreprises et les startups du Web 3, parce que là toutes les startups qu'on connaît, elles ont moins de 2 ans, 6 mois, 1 an, elles ont tous levé des fonds. Donc c'est extrêmement important de voir que ce nouveau paradigme, ce nouveau écosystème va toucher plusieurs entreprises. Pour revenir au DNVB, effectivement, on a fait un petit jeu de mots avec DMVB, pardon, qui est Digital Metaverse Virtual Brand. On pense à Artifact, on pense à Exclusible, on pense à toutes ces startups qui ont commencé par les NFT ou en tout cas qui se sont très vite appropriées ces technologies du Web 3 et donc du coup qui vont aussi sur le Metaverse. Donc c'était un peu une sorte de jeu de mots, mais pourquoi pas ce terme demain sera vulgarisé.
Quand ce CAC 40 va-t-il se mettre à adopter du métavers, etc., etc.
La capacité de la tortue, c'est pas la rapidité comme le lièvre, mais c'est la persévérance. Et c'est pour ça qu'elle gagne à la fin. Donc la route est plus longue, j'ai envie de dire, mais si elle reste bien organisée, bien managée, avec un programme d'acculturation au départ, comprendre le Web 3, ensuite mettre les outils en place, etc., bah, finalement cette ligne droite fait qu'à la fin, peut-être que ces entreprises iront plus vite que le lièvre, parce que n'oublions pas que les startups souvent sont des jeunes qui ont plein d'idées, donc ils peuvent aussi s'éparpiller en route, faire une petite pause à un moment donné en sachant qu'ils ont de l'avance et donc finalement perdre les courses.
Mais j'ajoute que la partie 5 du bouquin est une succession, il y en a je crois une vingtaine ou une trentaine, une succession de cas très pratiques d'entreprises qui ont mis le pied dans ce Web 3 et je pensais à Casino qui a lancé son LUG, une monnaie digitale réservée à Casino, et donc ces grosses entreprises un peu anciennes, et Casino est vraiment je crois quasiment 19e siècle, s'y mettent petit à petit et c'est effectivement intéressant. Et dans le livre, il y a aussi un moment, une échelle de maturité des entreprises. Vous avez proposé 4 postures sur la maturité Web 3. Alors je les rappelle très brièvement, les avant-gardistes, les opportunistes, les pragmatiques et les sceptiques. Aujourd'hui, vous diriez que les grosses entreprises du CAC 40, elles sont plutôt sceptiques, pragmatiques?
Tout dépend du directeur de l'entreprise, j'ai envie de dire, parce que c'est toujours une question de vision et une question de managériel. Alors, ces quatre figures, en fait, c'est totalement empirique, parce que moi, je suis directeur d'agence et j'ai côtoyé plutôt dans le secteur du luxe, énormément d'entreprises, des LVMH, des L'Oréal, mais aussi des plus petites boîtes. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est effectivement dans cette vague 1 et 2, et maintenant 3, j'ai toujours eu ces quatre figures. C'est-à-dire, soit des personnes qui poussent les portes et qui disent c'est super ce que tu me racontes, on va y aller, on va y aller à fond. Donc, ça, c'est les avant-gardes. On a les pragmatiques qui me disent oulala, attention, je veux comprendre quels sont les risques, donc ce qui est tout à fait normal. Donc, acculturation, analyser les risques, les opportunités, etc. Donc, eux, ils avancent plutôt en sous-marin et quand ils sont prêts, ils lancent et ils déclenchent. Ensuite, on a les sceptiques qui, eux, sont déjà en retard sur plein de chantiers digitaux. Moi, j'ai vu des gens, j'ai parlé du Web3 très en amont chez mes clients et ils m'ont dit, mais on n'est pas prêt encore sur le e-commerce. Donc je ne citerai pas, mais disons qu'on peut le comprendre aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a plein de chantiers qui ne sont pas mis en place. Donc, tu viens me parler du Web3, des NFT, tout ça, j'y comprends rien, alors qu'il y a plein de choses à mettre en place. Et le dernier qui était
les avant-gardistes,
merci. Les avant-gardistes, c'est les artefacts, c'est tout ce qu'on a vu arriver.
Nike, alors qui a racheté
Nike, totalement avant-gardiste, complètement, mais en même temps, c'est logique puisque Nike aujourd'hui, leur clientèle elle s'habille dès le collège. Donc, artefacts qui fait des sneakers virtuels, etc., dans un langage un peu web, digital web 3, sont déjà finalement en lien avec ses consommateurs. Alors que par exemple, le luxe aussi, parce que le luxe finalement, notamment la mode qui vend des vêtements, vont vendre des vêtements aux avatars. Donc, il y a des logiques aussi des business models qui sont beaucoup plus simples et naturelles pour certaines entreprises. Mais maintenant, on va parler des banques, la Poste qui s'est mis aussi, etc. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'autres logiques à trouver, d'autres business models à trouver. Et c'est pas toujours naturel pour une entreprise d'aller directement dans le Web3. Alors, pour d'autres, c'est tout à fait naturel.
Alors, Stéphane Gallieni, on va pas vous fâcher tout de suite avec Hermès, mais est-ce que Hermès a pas raté le coche en faisant un procès à Manson Rothschild pour l'utilisation du Birkin en NFT plutôt que de racheter, comme l'a fait Nike avec Artefact, plutôt que de racheter Manson Rothschild avec tous les NFT qu'il avait mintés sur les sacs Birkin, les sacs Kelly, etc.
Donc, je pense que l'artiste, il n'est pas là pour être racheté par une grosse entreprise.
C'est pas faux.
Après, on va dire que cet artiste-là, il est assez opportuniste. Hein. Donc, effectivement, les sacs Kelly, il va dire c'est comme Warhol avec ce Campbell. Hein. On a vu la citation, mais il n'a pas pris des sacs Leader Price. Il faut comprendre une chose, c'est que juridiquement, entre Hermès et cet artiste, on est sur un droit juridique français. Voire européen versus américain. Aux États-Unis, ils protègent l'artiste. Donc c'est pour ça qu'au départ, c'était mal parti pour Hermès et qu'à la fin, ils ont gagné le procès. Maintenant, l'artiste doit rembourser 100 000 $, je crois, à peu près. Il en a gagné 1,1 million. Donc finalement, qui est le gagnant dans l'histoire? Moi, je veux bien plagier ou en tout cas faire une contrefaçon virtuelle d'un sac Kelly, toucher 1,1 million et rembourser à Hermès que 100 000 $. Après, je pense que ce qui est important en termes d'image, je pense qu'ils ont bien fait de le faire parce que une maison de luxe lutte depuis des années contre la contrefaçon. Quelque part, ce Web3 peut amener une nouvelle forme de contrefaçon, et effectivement, c'était le cas. Et je pense que la jurisprudence est extrêmement importante dans ce cas-là, puisque c'est une des premières qu'on vit. Il y avait aussi une histoire avec Nike. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça va commencer à poser un peu les jalons de ce far web, comme je l'appelle, c'est-à-dire cet endroit où 100 fois ni loi dans un premier temps, qui va se réguler au fur et à mesure. Et je pense que pour Hermès, c'est extrêmement important de l'avoir fait pour des raisons d'image et de montrer qu'ils ont gagné à la fin, même s'ils ont perdu de l'argent. C'est une façon de dire on lutte contre la contrefaçon à tous les niveaux et c'est pas un artiste qui va nous embêter avec ça.
C'est vrai que j'avais été aussi beaucoup intéressé par l'appellation Far Web 3 et effectivement ce Far Web 3 peut être salutaire par moment. Il y a un sujet qui me passionne pour changer un petit peu d'axe, c'est les consommateurs eux-mêmes, donc la base de la base, les salariés des entreprises. Et dans le livre, il est fait mention que ces salariés, ces consommateurs, ces citoyens sont parfois mieux équipés, sont parfois en avance dans leur vie personnelle et dans leur adoption personnelle, sont plus en avance que les entreprises. Il n'est pas rare de voir des gens très bien équipés d'ordinateurs dernier cri chez eux et dans l'entreprise avoir un ordinateur qui rame. Et là, de la même manière, une entreprise réfractaire au Web3, alors que ses salariés, et avec la Gen Z qui arrive et la génération Alpha qui va commencer à faire des stages, il ne va pas être rare d'avoir des stagiaires et des jeunes employés qui ont tous un wallet, qui ont tous un portefeuille crypto et l'entreprise qui n'en a pas. Et est-ce que ce décalage-là risque pas donc deux possibilités de décourager ces jeunes générations en disant vraiment les anciens n'ont rien compris, donc je m'en vais, ou deuxième choix, je vous laisse choisir, l'entreprise finalement finit par adopter les codes des salariés et des consommateurs parce qu'ils se sentent un peu à la traîne.
Alors effectivement, on va reprendre la fable de lièvre et la tortue, mais cette fois-ci, le lièvre, on va dire que c'est l'individu qui est agile, parce qu'il est tout seul, et donc il peut avancer beaucoup plus vite que l'entreprise, qui elle, est la tortue. Pourquoi ? Parce qu'elle est collective et elle doit passer par des process, un process managerial, une infrastructure technologique, etc. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse…
Vous paierez un petit droit d'auteur à M. Lafontaine qui va…
Ouais, ben, je pense qu'il y a prescription, donc je peux me permettre de le citer. Donc on a… effectivement cette course en fait entre le consommateur qui va plus vite quelque part des fois devant l'entreprise et même des fois surpasse le marketing, mais tôt ou tard le marketing finit toujours par attraper le consommateur pour lui vendre ses produits. Donc par rapport à ça, effectivement, l'usage donc dans le Web3, création d'un wallet, mintage de NFT, etc., les gens tâtonnent, commencent à essayer, évidemment chez les plus jeunes, pour des raisons aussi un peu spéculatives, c'est-à-dire oulala, Beeple a fait 69 millions, je veux faire pareil, que ce soit un artiste, que ce soit pour plein d'autres raisons. On le voit chez les jeunes, cette appétence. Moi j'ai une fille qui avait 15 ans au moment où j'ai écrit le livre, avec un copain, ils se sont mis pour lancer sur OpenSea des NFT qui évidemment n'ont pas marché, mais en pensant qu'ils allaient faire plein d'argent. Mais voilà, donc il y a quand même d'autres choses à comprendre, une culture aussi, c'est pas que de la technologie, une culture de ce monde web et comment ça fonctionne et pourquoi certains arrivent à vendre bien leurs NFT et pas d'autres. Et c'est vrai que l'entreprise, le temps qu'elle comprenne un petit peu tous ces individus qui cette effervescence qu'il y a dans ce Web3, eh ben, il faut d'abord prendre un peu de recul, regarder un peu comment tout ça se passe, et l'entreprise va mettre forcément plus de temps pour des raisons qu'on a évoquées, c'est-à-dire le matériel, mais aussi les process qui vont ralentir finalement cette entrée dans le Web3.
Donc à chaque fin de chapitre, il y a un petit paragraphe, parfois assez long, sur impact sur le marketing. Mmh. Le Web3 n'a pas qu'un impact sur le marketing. Est-ce qu'on peut brosser l'impact sur les RH, l'impact sur la supply chain, l'impact sur un petit peu ce qu'on veut, pourquoi pas la finance?
Alors, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, bon, nous, dans le cadre avec l'éditeur Duno, on a choisi cet angle marketing, puisqu'en fait, on s'adresse d'abord aux gens du marketing. Mais effectivement, dans la réalité, ce qui se passe, et c'est pour ça qu'on a passé à la vague Web3, qui va emporter tout sur son passage, quand elle arrive dans l'entreprise, elle crée cet impact qui est à tous les niveaux, à tous les étages, puisqu'effectivement, et on le voit quand on peut entendre des porteurs de projets, même dans l'entreprise, comme par exemple Saint-Laurent, Lacoste, ou des marques qui s'y ont mis finalement plutôt que les autres, ces personnes, quand elles parlent, elles ont au départ lutté en interne, parce qu'elles ont dû d'abord, une fois que le projet, ils pensaient que c'était agile au départ, responsable marketing digital, lui dire on va lancer des NFT. Sauf que au moment où ils le font, le juridique met son nez dedans, la finance met son nez dedans, et donc finalement, pour monter ces projets, ils ont dû passer sur chaque département pour pouvoir le lancer. Et ça a créé des blocages ou en tout cas des ralentissements. Et ceux qui ont réussi à passer tout ça en entreprise, notamment les bons marketeurs digitaux qui ont réussi à convaincre tout le monde et onboarder tout le monde dans ces projets NFT, avec peut-être des ralentissements, je pense aussi à Renault qui l'a fait, donc une grosse entreprise française, ils ont réussi à passer le cap, et avant fin 2022, ils ont lancé leur opération avec des AO, distribution de NFT, etc., etc. Donc là, ça y est, ils ont pris le large, j'ai envie de dire. Et ce qui est important aujourd'hui, que je veux signaler ici, c'est que toutes les entreprises qui ne sont pas… Parce que eux, ils ont commencé en 2021 ces projets-là pour ensuite les sortir fin 2022. Donc maintenant, début 2023, c'est pour ça que je dis 2023.0, c'est que effectivement c'est l'année charnière. C'est-à-dire que ceux qui vont prendre du retard, ils vont vraiment prendre du retard. Ceux qui commencent maintenant, eh ben, ils vont sortir peut-être leur projet fin 2023, voire début 2024. Mais pour les autres, ils vont être à la traîne.
Alors on va passer un peu sur le domaine de l'IA. Première question par rapport à ça, on a vu l'énorme engouement, l'adoption massive de ChatGPT, qui existait déjà, cette technologie existait depuis longtemps, mais avec GPT-3. Mais le fait qu'une nouvelle user interface soit publiée, le fait que ce soit plus facile à manipuler, a généré un énorme engouement, et aujourd'hui, il n'y a pas un jour sans qu'il y ait deux, trois articles sur sur ChatGPT. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'on peut faire une prédiction ensemble de deviner quelle sera l'application Web3, qui sera le ChatGPT du Web3, qui fera adopter le Web3 par, allez, je lance un chiffre, par 20 millions de personnes en 20 jours.
Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est il y a le schéma dans le livre, hein, je vais le faire avec mon petit doigt, la courbe de la hype. C'est-à-dire qu'effectivement, on l'a vu pour le métavers, d'un coup, le métavers, un monde virtuel incroyable, pays de cocagne, etc. Donc toutes les entreprises veulent y aller, notamment le luxe qui a commencé les premiers, avec voilà, un fort engouement parce que la technologie arrive à maturité, devient visible, fait le wow effect jusqu'à son pic de promesses. Sauf que la promesse, elle n'est pas toujours tenue. Donc une désillusion, on l'a vu avec l'arrivée de l'hiver crypto, avec la chute des NFT, avec le métavers, finalement il y a sur ce décentralement, on a parlé de 36 visiteurs par jour, ce qui est rien. Donc en fait tous ces éléments font retomber un petit peu la pression médiatique et donc la tendance pour arriver dans ce qu'on appelle le creux de la vague, enfin ce qu'on appelle nous le creux de la vague par rapport au titre de la vague Web3. Et ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que j'ai insisté pour qu'on le mette au début du livre, cette creux de la vague, parce qu'elle remonte, il y a une deuxième vague qui va arriver, qui est plus mature, avec des projets ou des porteurs projets beaucoup plus sérieux, beaucoup plus raisonnés, et donc qui vont faire venir finalement l'usage par la suite d'ici voilà, 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et pour revenir à la question, effectivement, le ChatGPT du Web3, je pense que si on prend ce buzz ChatGPT, notamment sur l'adoption de l'usage très rapide, notamment aux US, et mid-journée aussi on peut parler, c'est que le résultat est immédiat. Je tape quelque chose, un prompt, je fais un prompt pour une image ou un texte et j'ai quelque chose, un résultat qui est bluffant. Donc on retrouve ce même schéma avec ce wow effect. Attendons encore peut-être 2-3 mois pour voir si ça ne retombe pas avec des législations ou autre chose, etc. Donc pour revenir à la question sur qu'est-ce que sera le ChatGPT du Web3, je pense tout simplement que ce sera dans... je rentre dans le Web3 et tout de suite j'ai un wow effect. Ça veut dire que c'est facile d'accès, j'appuie sur un bouton, j'ai mon wallet qui se crée, je rentre des NFT dedans, mais ce NFT me sert vraiment à quelque chose, à un ticket de réduction, etc. Donc je pense qu'il faut plus voir quelque chose, pas comme un point qui va arriver, qui va faire que d'un coup tout devient Web3. C'est plutôt, j'irais presque le parcours client dans l'usage. Alors, si on regarde par exemple le email ou voilà, Facebook, etc., c'est juste ouvrir un compte, puis après on peut discuter avec des amis. C'est très simple, le wow effect est toujours là. Ah tiens, ma cousine d'Amérique que je n'avais pas vue, je peux lui parler tous les jours. Et là, le wow effect, il fonctionne. Et l'usage, il fait que les gens reviennent. Puis avec les notifications, avec tout ça, enfin avec tout l'algorithme et les mises en place de cette plateforme font que finalement, on est tous rentrés dedans. Le Web3, on l'a dit tout à l'heure, c'est compliqué parce que déjà, il faut comprendre les mots qui se cachent derrière les concepts. Derrière les concepts, qu'est-ce que j'en fais? Et là, on en est plus dans une phase gérée de tâtonnement et d'acculturation à ces sujets-là, et moi-même je m'acculture tous les jours parce que je rate deux jours et d'un coup voilà, je ne sais plus répondre à une question.
Alors je vais vous poser une question un peu à la manière avec laquelle on s'adresse à ChatGPT, donc avec un prompt. Et donc je commence la question par oublie tout ce que tu sais, parce qu'il est mieux pour s'adresser à ChatGPT de lui dire d'oublier tout ce qu'il sait. Sur ChatGPT on se tutoie, donc oublie tout ce que tu sais, agis en tant que spécialiste du métavers chez Sony. Et la question est, que penses-tu de l'acquisition de Blizzard Vision par Microsoft ?
Donc je dois parler comme ça. Non. Donc alors ça c'est un effet qui a fait vraiment un grand boom dans le monde du jeu vidéo, notamment parce qu'effectivement, alors moi ça m'a beaucoup intéressé cet épisode, puisque effectivement on voit un géant de la tech qui vient se pluguer à l'univers on va dire du gaming, et effectivement la lecture que j'avais un peu du métavers, mais d'autres experts peuvent le dire, c'est que l'usage du métavers est aujourd'hui beaucoup porté par le monde du gaming. Donc quelque part c'est là la croyance dans le métavers pour le futur, en disant c'est pas qu'un effet de mode, c'est les sommes investies, 69 milliards, c'est qu'on voit bien que c'est pas une petite somme. Donc le retour sur investissement, il doit se créer dans les prochaines années. En même temps, quand on sait que des Call of Duty ou des Candy Crush sont des jeux extrêmement populaires et qui touchent finalement différents niveaux, hein, c'est pas simplement l'adolescent avec sa PlayStation, hein, je crois que la moyenne d'âge du joueur, c'est à peu près 39 ans, donc on voit que peut effectivement, que ce soit sur mobile ou que ce soit sur la PlayStation, les consoles ou le métavers, il y a à la fois un engouement et en même temps un business fou, puisqu'on sait aujourd'hui que le jeu vidéo c'est le premier média et dans l'entertainment c'est numéro un. Donc forcément, d'un point de vue prospective marché, je pense que l'acquisition est une bonne chose.
Donc ça c'est du point de vue de Sony. Et donc je parle toujours à l'intelligence artificielle, le ChatGPT, je lui dis, et maintenant, si tu étais chez Apple.
Alors, on va un peu parler des GAFAM, ou des mamas comme on dit dans le livre, parce que bon, tout change, voilà. On a effectivement, chez les géants du GAFAM, plusieurs tactiques. Effectivement, Apple, on va dire que le business d'Apple, ça a été de l'Apple Store, avec notamment tout un programme, une bibliothèque d'applications, de software qui vient se plugger sur son téléphone et qui permet effectivement un usage incroyable de tous les jours et avec de nouvelles applications qui arrivent aujourd'hui. Apple n'est pas dans le jeu vidéo à part par l'Apple Store où évidemment même Candy Crush se retrouve sur son téléphone et on voit les gens dans le métro continuer à jouer à Candy Crush. Donc effectivement je pense qu'Apple a une autre stratégie et je pense que c'est plus Meta qui est son concurrent, puisque je pense qu'ils ont compris une chose, c'est que Zuckerberg en rachetant Oculus Rift en 2014 a pris de l'avance considérable sur les casques, parce qu'il a créé l'Oculus Store qui est, on va dire, l'équivalent de l'Apple Store mais en version réalité virtuelle. Donc le temps d'avance qui a été pris par Meta, Apple, je pense, essaye de le rattraper en proposant des casques peut-être beaucoup plus performants, etc. Probablement plus cher, plus sexy, plus. Enfin voilà. Donc je pense, là, j'attends avec impatience de voir. Je crois qu'ils avaient annoncé au premier trimestre 2023 leur sortie de casque, j'attends de voir. Et comme tout projet un peu techno, ils vont sûrement prendre du retard. On rappelle aussi les Google Glass qui ont démarré en 2011, je crois, et qui se sont arrêtés 3 ans plus tard. Donc tout ça, ça reste encore de la technologie qui n'est pas encore complètement mature, mais un peu comme les téléphones Motorola des années 90. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que dans 10 ans, on aura le vrai casque virtuel que tout le monde adopte. Peut-être des lunettes très simples à porter qu'on pourra porter dans la rue, et à la fois réalité augmentée, réalité virtuelle. Donc moi c'est un peu les fantasmes que j'ai pour ce type de je dirais, scénario Apple.
Je voudrais juste citer le sous-titre du livre, maîtriser les nouveaux codes du marketing 3.0, et encore en sous-titre, blockchain, NFT, DAO, métavers. Alors j'ai plein de questions sur ce sous-titre. Première question sur ce fameux marketing 3.0, à qui peut-il s'adresser? Est-ce qu'il faut forcément être un acteur du Web 3 pour faire du marketing 3.0, ou est-ce qu'une entreprise traditionnelle, une chaîne de magasins, peut faire du marketing 3.0? Et ensuite, autre question, il y a blockchain, NFT, DAO, métavers. On a parlé un petit peu de ces différents sujets. S'il n'y en avait qu'un à retenir pour représenter le mieux le Web 3, ce serait plutôt blockchain, DAO, NFT, métavers. Donc lequel des quatre représente le mieux le Web 3? Et ensuite, est-ce que entreprise traditionnelle peut faire du marketing 3.0.
Ce livre s'adresse évidemment aux marketeurs, aux dirigeants. Maîtriser les codes du marketing 3.0, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que d'une part, comment s'y prendre pour toucher une nouvelle cible à travers ces outils, mais aussi comprendre culturellement. C'est pour ça que dans le livre, on a à la fois, on l'a dit, des services sont un peu plus douloureux parce qu'il faut rentrer en technologie si on ne peut pas comprendre le Web3, mais on a aussi fait des encarts et des parties qui sont un peu plus sociologiques ou réflexions un peu plus, je dirais, philosophiques sur comment le consommateur va se comporter là-dedans. Donc je pense que c'est ça. Rappelez-vous, quand il y avait le Web2, les attachés de presse envoyaient des communiqués de presse à des blogueurs, les blogueurs leur envoyaient en disant c'est trop long, je comprends pas ce que vous racontez, et d'ailleurs vous pouvez pas m'acheter comme ça, faut qu'on discute. Donc il y a aussi de l'autre côté, c'est le consommateur. Si vous faites une opération et qui est pas dans les codes du Web3, pas dans le jargon du Web3, et ben ça risque de pas marcher. Voilà, donc ça c'est le premier point. Deuxième point sur les différents mots, c'est pour montrer aussi que justement ce jargon, on a commencé un peu qui a été beaucoup parlé dans la presse, etc. Donc les gens connaissent les mots sans forcément savoir ce qui se passe derrière. Je prends par exemple DAO, à mon avis, un mot moins connu que NFT, dont on a beaucoup parlé depuis 2021. Moi, si je garderais qu'un seul mot, et j'en suis convaincu, c'est la colonne vertébrale du Web3, c'est la blockchain. Parce que sans la blockchain, il n'y a pas de Web3, tout simplement. Derrière, vient se pluguer les NFT, les cryptos, et tout ce qui va faire avec l'avancée du Web3.
Et donc la dernière question, Web3, la vague Web3, c'est une vaguelette, un tsunami entre les deux, puis quand est-ce qu'elle va prendre son ampleur, cette fameuse vague?
C'est tout simplement, moi je reviens un peu en arrière, en 2021, avec l'affaire Beeple qui vend le premier NFT d'art à 69 millions. Ça pour moi, ça a été l'incident déclencheur, le séisme. Donc le séisme, on ne le voit pas venir. Donc l'océan est plat, etc. Sauf que d'un coup, les plaques terrestres du Web3 commencent à muter, bouger, etc. sans que finalement les gens soient à plat, je la vois. D'un coup, se forme la vague au loin. On la regarde, on dit « Ah tiens, il y a une vague qui arrive, etc. » Et en fait, plus on attend sur la plage et qu'on la regarde, bah, plus on voit qu'elle grossit. Et si on n'est pas prêt à soit courir, soit trouver un moyen de prendre son surf et d'aller surfer cette vague, on est mal. Donc c'était un peu cette métaphore qu'on voulait mettre en place avec tous les épisodes qui sont allés derrière, Meta, Zuckerberg, les crypto-monnaies, la démocratisation du Bitcoin et tous ces phénomènes qui sont arrivés derrière, bah, c'est cette vague qui est en train de porter. Et là, je pense que la transition digitale sur le Web3 sera beaucoup plus forte, donc je répondrai plutôt tsunami, que l'écume des vagues de tous les jours, les petites anecdotes, etc.
Ben super, je rappelle le titre du livre aux éditions d'Uno, donc La vague Web 3, écrit par Stéphane Gallieni qui était avec nous et qui a répondu à toutes nos questions, et Stéphane Truffem. Merci beaucoup Stéphane, et à très bientôt pour un autre ouvrage ou une autre opération Web 3.
Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.